Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Troisième volet, troisième rencontre de la semaine dans cette série spéciale François d'Assise avec ce dernier livre qui s'intitule François d'Assise, un cœur qui écoute, avec une préface du cardinal François Bustillos. L'auteur, c'est Suzanne Josepi-Testu. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Ce livre est paru aux éditions Salvator pour toutes les générations. Chers auditeurs, si vous avez envie d'offrir un livre autour de vous, à vos enfants, petits-enfants ou vous-même, je vous invite vraiment à devenir lecteur. Ce livre est riche, hein, voilà, plusieurs paragraphes, hein, donc consacré aussi à l'obéissance, des passages aussi sur cette sainte providence divine dans la vie du grand François d'Assise. Et puis on va parler aujourd'hui, si vous voulez bien, on est au cœur de la série, on va parler de cette cellule intérieure, on va parler du monde. Parfois, ce monde s'agite aujourd'hui, Suzanne, ce monde est parfois un peu bruyant. Nous avons aujourd'hui, à notre époque, et ce n'était pas aussi l'époque de François, l'activité de tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, on s'affole beaucoup, on en dépend, on se laisse posséder parfois par ses réseaux sociaux. Et François, vous nous le rappelez aussi dans cet écrit, François va aussi régulièrement se mettre en retrait, faire silence, arriver aussi à la contemplation. Vous écrivez très vite et ensuite je vous laisse la parole. C'est page 46 de ce nouvel ouvrage. Le retrait nécessite une prise de conscience personnelle. Il s'impose à toi, François. Tu vas donc l'expérimenter et t'y conformer dans un terrible face à face, si sûr de toi, quelque temps auparavant, tu es assailli par tes peurs profondes et par ton incapacité à te confronter aux obstacles extérieurs, etc., etc. Il y a de forts passages. Hein. Lui aussi a été confronté, François, à ses peurs, ses angoisses, peut-être ses tentations. Il avait besoin de retrait. Qu'est-ce que vous pouvez dire de François? Et puis, pour ceux et celles qui vous écoutent, au cœur de ce monde bruyant et confus parfois.
Alors bien sûr, nous avons l'impression que ce monde est plus bruyant que celui dans lequel vivait François. Il est différent, mais il avait ses bruits également qui n'étaient pas très beaux. Il y avait beaucoup de guerres aussi à cette époque-là. Et tous les hommes de tout temps ont toujours eu des désirs, des peurs, des angoisses. Mais il est certain qu'à l'heure actuelle, tout va extrêmement vite. Et peut-être aussi que Dieu n'occupe pas la place dans notre vie comme elle l'occupait au temps de François. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Nous n'avons peut-être plus les mêmes garde-fous. Voilà, peut-être que ça, il faut le dire. Alors, il est beaucoup plus difficile de se relever quand on traverse une période douloureuse. Et Dieu sait si nous en traversons. Donc, on rencontre oui, énormément de gens en détresse. Et François a une parole, je voudrais la reprendre parce qu'à mon sens, elle est extrêmement importante. Il dit « Ma cellule, c'est le monde ». François n'a jamais renié le monde. Il n'a jamais essayé de s'en séparer, il ne l'a jamais jugé et ne l'a jamais critiqué. Mais quand François dit « ma cellule, c'est le monde », il pense peut-être à la condition humaine. Il pense peut-être à l'énigme du monde, parce que le monde est quand même une énigme pour nous. Qu'est-ce que le monde? Il pense à notre environnement cosmique. Tout cela est vertigineux. Bien sûr, on essaie d'apporter beaucoup de réponses, mais François a réfléchi une chose, il a compris que ce monde qui est immense, qui pose question, eh bien, c'est notre logement. Ma cellule, c'est le monde. Est-ce que nous sommes conscients que ce monde, c'est notre logement, que nous vivons, nous y sommes dans ce monde, nous sommes au cœur de ce monde. Donc il n'a jamais cherché à le fuir parce que ce n'est pas possible. Ou alors c'est une décision dramatique. Donc il ne l'a jamais critiqué, il ne l'a jamais jugé, mais il a appris à vivre au cœur de ce monde avec tout ce qui s'y passait, les belles choses et les moins belles. Et c'est ce que nous avons à apprendre de nos jours, mais qui nous est peut-être plus difficile. Parce que, je le dis, je le répète, Dieu n'occupe pas la même place dans notre vie. Il y a peut-être une perte de sens. Alors, François, il se demande peut-être aussi à son époque ce que nous faisons tous là-dedans. Mais qu'est-ce que je fais au cœur de ce monde? Pourquoi je suis là? À quoi je sers dans ce monde? Il se pose peut-être aussi la question, quelle part du mystère du monde et de son secret pouvons-nous partager? Il a peut-être d'autres questions. Je crois une question qui nous intéresse tous et qu'il s'est posée lui-même. Le monde peut-il devenir le domicile de la paix? Parce que nous parlons beaucoup de paix. Il y a beaucoup de rencontres pour la paix. Il y a certes des belles choses qui se passent, mais que de misère encore. Et je crois que du temps de François, il y a eu des actes de paix, bien sûr, mais les guerres ont continué. Alors, on peut se dire, parce que l'homme actuel, avec son intelligence, est en mesure de plus en plus de percer quelques bribes du secret de ce monde. Mais combien parmi nous, je crois que ça c'est une grande question, combien parmi nous osent-ils partager leurs convictions profondes sur la foi? Combien parmi nous osent-ils partager leurs croyances en Dieu? Combien parmi nous continuent encore à croire en l'homme, en sa grandeur et en sa possibilité de faire un chemin de sainteté? Qui y croit encore? On est pris par un tel mouvement, par un tel brouhaha, qu'on ne sait plus très bien où on en est. Donc, je pourrais dire aussi, est-ce que nous croyons? Et ça, c'est ce que François d'Assise nous apprend. Est-ce que nous croyons à la capacité ou au don qui est fait à l'être humain d'accéder à un regard plus profond? Parce que nous sommes dans la superficialité maintenant. On regarde tout et très vite, on ne va pas en profondeur. Est-ce que je suis capable moi-même de me regarder en profondeur? Est-ce que nous acceptons la possibilité? On a parlé des jeunes, on a parlé des difficultés des jeunes. Est-ce que nous acceptons la possibilité qu'un projet purement mondain? C'est normal que nous ayons des ambitions mondaines, des ambitions professionnelles, un projet mondain qui est ancré dans un désir de vaine gloire. N'oublions pas que François voulait des titres de noblesse, voulait un titre de noblesse, donc il voulait guerroyer pour obtenir des titres de noblesse. Est-ce que nous acceptons qu'un projet donc purement mondain, fondé sur la vaine gloire, sur l'ego, sur l'orgueil, puisse revêtir une portée spirituelle sous l'effet de la grâce, sous l'effet de l'intervention divine? Est-ce qu'on y croit encore, ça? Est-ce qu'on croit encore à l'appel? Est-ce qu'on croit encore que le Seigneur peut nous dire « va » Est-ce qu'on va écouter? Est-ce qu'on croit encore que à cette parole qui va solliciter le désir et la liberté, qui va solliciter, comment dirais-je, la mise en action de l'éros, qui va solliciter un élan vital, qui est une formidable puissance de vie. C'est-à-dire une parole qui va nous faire sortir de notre petit environnement, de tout cet horizon existentiel dans lequel on s'enferme, hein, dans cette horizontalité dans laquelle nous sommes.
Dans un certain confort et peut-être, permettez-moi, peut-être une paresse.
Une paresse, une misère même, une pauvreté humaine. Est-ce que nous croyons que tout simplement, par un simple appel et par l'intervention divine, si je suis capable d'entendre et d'écouter, je vais rentrer dans une autre dimension, je vais rentrer dans la verticalité de l'être, je vais rentrer dans la dimension spirituelle et que tous ces désirs que j'avais, qui sont normaux dans notre monde, ça ne va pas m'empêcher d'aller vers ces désirs, d'aller vers cette envie d'avoir une activité professionnelle de telle ou telle, mais je vais lui donner un autre sens, je vais lui donner une autre dimension. Il n'y aura pas simplement, je ne vais pas le faire simplement par vaine gloire, par orgueil, par fanfaronnade, parce que dans ce monde, il faut briller pour être reconnu. Voilà, et c'est ce que François nous apprend. Il n'a pas eu besoin de ça pour briller. Au départ, il en avait besoin. Mais il a compris que être un homme, ce n'était pas ça. Qu'il pouvait donner un autre sens à sa vie, tout en faisant de très belles choses et de très grandes choses.
Donc, il a compris qu'il fallait sortir un peu de ce nombrilisme, arrêter de se regarder.
C'est un retrait.
Ne plus briller, voilà, pour laisser toute la place au grand.
Tout à fait, c'est un retrait nécessaire qui s'est imposé à lui. C'est une plongée intérieure.
Alors, on va terminer cette troisième émission dans cette série. On va retenir aussi, et j'invite les auditeurs peut-être à s'interroger personnellement, hein, voilà, donc individuellement, vous avez interrogé aussi à travers cette figure de François. Est-ce que l'on croit toujours à l'appel? Voilà. Alors, cet appel, pour y croire, il faut d'une part l'entendre, et pour entendre, il faut l'écouter. Donc, est-ce que nous prenons le risque d'oser aussi se retirer pour entendre, écouter et pourquoi pas espérer un jour répondre à nouveau dans ce mouvement de vie?
Alors moi, je ne dirais pas est-ce qu'on croit encore à l'appel. Quand il y a appel, véritablement appel, on est saisi. Il y a un arrêt. Certes, je peux répondre, favorablement ou pas. Mais il y a appel et on sait qu'il y a appel.
Derrière l'appel, vous pensez à la mission?
Pardon?
Derrière l'appel, vous pensez aussi à la mission future?
Absolument. Derrière l'appel, la vocation et la mission va se dessiner. Mais l'appel, c'est quelque chose de tellement fort, on ne peut pas passer à côté. On peut l'accepter ou le refuser. On peut mettre en place ce mouvement de vie. On peut répondre oui ou non.
Donc liberté. Mais
en liberté. Mmh. Le Seigneur nous laisse cette liberté. Il accepte notre refus. Mais je sais qu'il y a quelque chose de particulier, je sais qu'il y a un appel.
Donc dans l'appel, on est saisi.
On est saisi. Alors je me laisse saisir ou pas? Si je me laisse saisir, et ça doit supprimer toute peur. Il est certain que c'est très fort. Mais le Seigneur nous laisse le temps. Il nous laisse le temps. Il va laisser mûrir cet appel, comme il a laissé mûrir pour François. Et si j'accepte d'écouter, si j'accepte cette aventure, à un moment donné, je vais obligatoirement franchir un pas, en toute liberté, mais je ne pourrai pas ne pas le franchir. Ce sera en toute liberté, mais je ne pourrai pas ne pas le franchir. Et c'est ce qui s'est passé pour François, c'est ce qui se passe pour tout missionnaire.
Alors il est merveilleux, François, et pour aller plus loin, pour s'engager peut-être, et devenir, pourquoi pas, à la suite du Christ, et cette figure que vous nous présentez si bien, je vous invite, chers auditeurs, à découvrir ce livre, à l'offrir peut-être autour de vous, peut-être les grands-parents pour les petits-enfants et puis les parents pour vos enfants. François d'Assise, Un cœur qui écoute, ce livre est paru aux éditions Salvatore et c'est avec joie et la joie de François d'Assise que je vous invite demain, ici même à la même heure. Suzanne-Josée Pitestu, à demain.